Et on enchaîne avec Coralie Doit, qui va nous parler de squats et de normes éthiques, en essayant de mettre en tension effectivement les régimes de radicalité qui se sont succédés et qui ont construit l'histoire du punk.
En partant de mon terrain qui est donc les squats, je fais une thèse là-dessus. Et je vais, ça va faire beaucoup écho à la présentation aussi de Philippe Roizès qui est parti là. Et à une autre communication que j'avais fait avant. Mais là, en fait, je vais vraiment m'intéresser au concept donc, de régime de radicalité punk pour discuter certaines choses à partir de ce concept. Du coup, pour commencer par définir ces régimes de radicalité punk, donc je me base sur ce qui a été écrit par Solveig et Luc dans On Stage, On Backstage, 1, 2, 3, et où les régimes de radicalité punk sont décrits comme donc, l'ensemble structuré, structurant, provisoirement stable, des valeurs de référence et des argumentations qui vont organiser en un moment et un lieu donné la pensée, les discours, les postures, l'idéologie et les pratiques du punk. Je passe rapidement sur la définition, mais globalement, on peut entendre ça comme des formes d'idéologie du punk, pour aller rapidement, et trois grandes phases vont être identifiées. Donc, à partir de 77, avec un mouvement punk qui va s'axer beaucoup autour d'une critique sociale et des institutions, les grandes institutions, donc l'église, la famille, le système, la société de consommation. Dès le début des années 80, en fait, la critique qui va être portée par le mouvement punk va évoluer vers une critique de l'extrême droite, des violences politiques, policières et sociales. Et dans les années 2000, on passerait donc à un troisième et dernier régime de radicalité qui, là, va plutôt porter une critique féministe, antispéciste et écologiste. Donc ces trois régimes de radicalité, ils font écho aussi aux différentes générations punk dont Luc et Solveig nous parlent à plusieurs reprises. À la fois, ils se recoupent avec ces générations et à la fois, pas complètement. C'est-à-dire qu'on a la première génération punk donc, qui serait 76-79, qui correspondrait donc au premier régime de radicalité. Hein. La deuxième génération punk, c'est les années 80, donc ça va être les Quepons, un milieu plus politisé, plus proche des milieux anarchistes et autonomes, qui vont créer la scène alternative et la structurer. Donc ça va correspondre globalement avec le deuxième régime de radicalité. Et par contre, on a une troisième génération dans les années 90 qui, là, du coup, n'a pas de régime de radicalité propre et qui serait toujours donc dans le deuxième régime de radicalité jusqu'à ce qu'arrive la génération 2000 qui la porterait un nouveau régime de radicalité. Alors, en introduction, je voudrais citer un extrait d'entretien avec une personne enquêtée qui est squatteuse et qui a alors 38 ans au moment de l'entretien. Et vous allez voir comment, en fait, il identifie vraiment ces mêmes régimes de radicalité dans le récit qu'il fait de les évolutions du mouvement punk comme il les voit. Donc il dit, voilà, donc vous voyez, j'ai mis en couleur un peu les trois grands régimes de radicalité identifiés là. Donc il dit, voilà, justement, je pense que les nouveaux punks, en tout cas qui se définissent un peu comme ça, ils sont beaucoup plus touchés par le véganisme, par exemple. Pas écolo, mais en tout cas soucieux de quelque chose, de la planète en particulier, de ce qui touche à la planète, aux animaux, etc. Il dit, voilà, ça c'est vraiment, c'est quelque chose qui a changé, et la vraie philosophie du nos futurs, c'est un truc qui n'existe plus, quoi. C'est-à-dire que le truc sexe, drogue et rock'n'roll, ça a été remplacé par vegan, planète et compagnie. Et ensuite, du coup, il revient un peu sur ce qui était le premier régime de radicalité punk, à son sens, où il dit, voilà, avant, le mouvement punk était contre toute forme de morale, parce que les formes de morale qui existaient avant, c'était plutôt des morales donc issues de la morale judéo-chrétienne ou des grandes institutions. Et donc là, il décrit un peu le deuxième régime de radicalité. Ensuite, tout le milieu alternatif, au lieu de lutter contre une morale, en a créé une. Et à la limite, le premier truc où il y avait une espèce de morale, c'était l'antiracisme. Donc voilà, ensuite il développe un peu son idée, puis il explique que lui, il est arrivé justement dans ce mouvement punk, l'antiracisme était déjà là. Du coup, il se reconnaît dans ce régime de radicalité-là, mais il va être critique du dernier régime de radicalité, donc porté par des personnes plus jeunes, et justement des thématiques véganes, écolo ou de genre. Donc ce que soulève un peu cet extrait d'entretien, c'est d'abord qu'on voit que l'existence de différentes générations punk qui porteraient chacun un régime de radicalité différent fait sens pour cette personne. En même temps, on se dit qu'il y a une corrélation à faire aussi entre les régimes de radicalité et les générations, puisque lui, il arrive donc par l'antiracisme, c'est quelqu'un qui est né au début des années 80, donc il est adolescent dans les années 90, donc il s'inscrit dans ce deuxième régime de radicalité, ça correspond bien. Il appartient vraiment à ce groupe des Quepons, avec un style vestimentaire qui est déjà codifié, une scène alternative qui est déjà structurée. Et ce que nous montre cet entretien, c'est que l'intérêt aussi de questionner en fait, les périodes de transition d'un régime de radicalité à l'autre. puisque donc ce que nous disait Luc et Solveig dans leur ouvrage, c'était que c'était vraiment au début des années 2000 qu'il y avait l'émergence du dernier régime de radicalité. Là, ce que lui va nous décrire, c'est plutôt que lui voit arriver ça, la vraie rupture, ça va être en fait au milieu des années 2010. Du coup, on peut se questionner sur comment est-ce qu'on voit par en bas, c'est-à-dire pas par la scène musicale, mais aussi par les gens qui se revendiquent punk, l'arrivée et la confrontation entre plusieurs régimes de radicalité différents. Et est-ce qu'il n'y a pas un décalage aussi entre ce qui est dit dans les musiques, porté par les groupes, et ce qui est vécu par les personnes au quotidien ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se passe plus progressivement ou peut-être légèrement en décalage ? Voilà, donc c'est à ça que je vais globalement essayer de répondre. Donc tout ça va nous amener à nous questionner sur justement comment est-ce qu'on peut caractériser l'appartenance à une génération punk ? Par exemple, la génération 80, en fait, c'est quoi ? Est-ce que c'est les gens qui sont adolescents dans les années 80, qui ont 20 ans dans les années 80, qui créent un groupe dans les années 80, etc. ? Moi, comment je vais le penser par rapport aux entretiens que j'ai faits et qui me semblent le plus pertinent dans ce cas-là ? Ça va être vraiment penser l'appartenance à une génération comme la période à laquelle la personne rejoint le mouvement punk. Or, il se trouve que c'est souvent à l'adolescence, en tout cas l'adolescence joue vraiment un moment pivot, et donc les personnes qui par exemple vont être nées début 80, vont avoir 16, 18 ans dans les années 90, vont finalement appartenir à la génération 90. Un autre élément qui va être important à prendre en considération pour penser ces générations, ça va être, et ces régimes de radicalité, ça va être en fait qui la personne côtoie. C'est-à-dire qu'on peut avoir 16 ans à la fin des années 90, mais en fait on rejoint une bande de punk où il y a des gens qui ont 10 ans de plus que nous, qui en fait portent un régime de radicalité qui correspond à la période précédente, et nous on embrasse ce régime-là. Ce qui fait qu'on peut se rattacher à un régime de radicalité qui ne va pas correspondre à notre âge ou à notre génération. Voilà, encore autre chose, donc, et ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire là, mais le fait que les générations peuvent en fait être porteuses de régimes de radicalité qui ne vont pas être le régime dominant de leur époque, et d'où l'intérêt de l'analyse sociologique en fait en voyant ce qui se passe par en bas au niveau des individus qui s'identifient comme punk et au niveau du rapport qu'ils entretiennent avec les régimes de radicalité. Donc là, ça va m'amener à réfléchir justement à cette période des années 90, où en fait, en parallèle, certains groupes de punk vont être, se marchandiser, on va dire. Il va y avoir le développement d'une critique contre ce processus, qui est à la fois portée par des groupes d'anarcho-punk, mais il va y avoir une double scission, en fait, avec un autre groupe aussi qui va porter une critique contre cette marchandisation du punk, qui va venir plutôt d'un groupe qu'on va appeler les punks à chiens, qui vont développer aussi leur propre groupe de musique et qui vont rejeter typiquement certains groupes comme les Betteraves ou Guérilla Poubelle ou les Sales Majestés, qui sont vus comme en fait des vendus du punk californien, des punks d'appartement ou de cartes postales, et qui vont se faire littéralement lyncher en fait lors de certains concerts, notamment dans des squats, mais pas que, parce que en fait ils ne correspondent pas à l'idéal qui est porté par du coup ce régime de radicalité là. Qui retourne à une inspiration finalement plus proche de ce qui est porté dans les années 80, plus proche du nos futurs, qui va défendre vraiment le style bricolé DIY de la musique, qui va défendre en fait le fait d'être punk comme un mode de vie, qui passe par le fait de traîner dans la rue, de vivre en bande, d'ouvrir des squats, apologie de la zone, voilà vraiment tout ça. Et du coup finalement ce groupe un peu des punk à chiens va s'éloigner du versant politisé du mouvement punk, donc qui est l'anarcho-punk, mais qui va, cet éloignement va se voir aussi avec l'éloignement des Redskins, par exemple. Et du coup, ils vont rejeter en fait le côté politique qu'il y avait du punk et garder d'autres éléments de référence. Voilà, ils veulent préserver une sorte d'authenticité originelle du punk, un style de vie. Alors du coup, moi, ça m'amène à me questionner un peu sur, du coup, comment est-ce qu'on considère ça ? Du coup, il me semble que c'est quelque chose qui existe vraiment. Est-ce que ça serait un régime de radicalité supplémentaire qui n'aurait pas été identifié là, mais qu'on pourrait rajouter, spécifique peut-être aux années 90 ? Ou est-ce que finalement, on aurait le régime de radicalité précédent qui devient minoritaire, évolue comme ça, et se retrouve en confrontation avec ce qui se passe autour d'eux ? Bon, je laisse la question en suspens. Du coup, là, je voudrais m'intéresser un petit peu aux tensions, justement, entre ce régime de radicalité de ces punks de la génération fin 90, de type punk à chien, on va dire, et le dernier régime de radicalité, donc, qui a été décrit plutôt écolo, queer, etc., antispéciste, en voyant concrètement comment ça se manifeste dans les squats comment les gens rencontrent des tensions et négocient en fait entre ces deux régimes, parce que c'est pas seulement il y en a un qui domine et puis l'autre, enfin voilà, ça se passe concrètement avec des tensions dans la vie des gens, quoi. Donc je vais donner rapidement quelques exemples, hein, mais en tout cas au niveau de l'alimentation, il y a vraiment un tournant qui est décrit, moi, par les personnes avec qui je fais des entretiens, au cours des années 2000, surtout 2010, avec, avant, en fait, un végétarisme qui était déjà répandu, mais qui était vu comme, en fait, un mode de consommation individuel, personnel. C'est-à-dire, des gens étaient végétariens, mais voilà, c'était minoritaire, c'était leur choix personnel, quoi. Et où ensuite, il y a un basculement où ce n'est plus le végétarisme, mais ça va être plutôt l'antispécisme, qui, du coup, va être formulé comme une lutte politique, qui, donc, par définition, vise à convaincre, à se diffuser et à transformer le comportement des autres autour. Un autre exemple qu'on peut prendre de ces mutations, ça va être le rapport à l'hygiène. Où, moi, j'ai beaucoup d'entretiens qui me racontent, en fait, les squats au début des années 2000, où les habitants revendiquaient vraiment la saleté. C'est-à-dire que c'était pas « on a la flemme de faire le ménage », c'était, enfin moi j'ai une anecdote avec quelqu'un qui organisait un concert dans un squat comme ça, et qui nettoie les toilettes, qui met du parfum dans les toilettes, et qui se fait mais embrouiller grave, parce qu'on lui dit « ah ouais, c'est pas assez propre pour toi », et limite le concert ne va pas se tenir parce que les gens sont outrés qu'on ait pu nettoyer les toilettes. Donc vraiment c'est un truc, une revendication finalement, ou ne pas faire le ménage, c'est en fait contre des normes hygiénistes majoritaires, contre des normes bourgeoises. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est une forme d'engagement, quoi. Un autre exemple qu'on peut prendre, et donc ça, ça se voit plus du tout aujourd'hui, hein, où dans les squats, ce qu'on voit, le ménage est quand même relativement généralisé, ou en tout cas les discours sur le ménage. Enfin voilà, c'est difficile de revendiquer ça aujourd'hui. Concernant la drogue ou l'alcool, c'est pareil en fait. J'ai l'impression qu'il y a une évolution en fait entre un mouvement straight edge qui, en fait, n'a jamais véritablement pris en France, contrairement à d'autres pays, et où, en fait, il y avait des pratiques individuelles de personnes straight edge, mais qui ne cherchaient pas vraiment à l'imposer. C'était un choix individuel, un peu comme le végétarisme. Et où, aujourd'hui, ça va beaucoup plus prendre la forme d'un choix politique contre l'intoxication des corps, contre donc, les bastons, contre les agressions sexuelles, etc. Voilà, donc il va se formuler sur un versant plus politisé. Enfin, il y avait un dernier exemple donc, dans ces normes corporelles qui était le pogo, donc ça a déjà été évoqué par plusieurs personnes, mais vraiment cette critique radicale du pogo où il y a des négociations qui s'effectuent en fait, pour déterminer quel est le niveau de violence acceptable, qu'est-ce qu'un bon pogo, comment on a le droit de faire un pogo, voilà, définir le bon pogo respectueux et codifié. Ce qui me semble intéressant à noter à ce stade, c'est déjà que en fait, le dernier régime de radicalité va puiser sa source dans la critique du régime précédent, qui portait en ses germes, en fait, finalement, c'est les sources de sa propre critique. C'est-à-dire que ce qui est remis en cause, ça va être des codes jugés très masculins, des sociabilités masculines, et les critiques vont émerger notamment avec des discours féministes contre le virilisme du pogo ou de la violence, etc. Pareil, en fait, l'alcool, c'est quelque chose qui va être très fédérateur, important dans la sociabilité, presque un rite d'intégration, en fait, par les concerts, etc. Mais qui, en même temps, va produire des formes d'exclusion. Et donc, les gens qui se sentent exclus vont constituer un discours contre ça. Donc, je passe rapidement à un deuxième type de normes qui est remis en cause. Ça va être donc non plus les normes corporelles, mais les normes d'expression. Et là, je vais me contenter de nommer deux exemples. Donc, à la fois l'humour, puis les temps et espaces de la discussion. Donc l'humour, en fait, c'est quelque chose qui va être vraiment présenté comme un facteur de cohésion de groupe, vecteur d'intégration, même sentiment d'identité commune, en fait, très fort. C'est quelque chose qui est vraiment souligné tout le temps, moi, avec les personnes à qui je fais des entretiens. C'est un élément essentiel, en fait, de leur identité punk. Mais ça va être vraiment des types d'humour aussi particuliers. C'est-à-dire, il y a à la fois un humour par l'absurde, par les jeux de mots, les contrepétries, etc. Et l'humour comme vecteur d'expression pour dire des choses qui dérangent. Il y a une grande importance de l'ironie, en fait, qui est le fait de rire des autres pour dire des choses qui nous dérangent, mais voilà, de manière ironique. Et son corollaire, c'est-à-dire l'autodérision, le fait de rire de soi. Et il y a aussi un type d'humour qui va être plutôt l'humour noir, le cynisme, qui permet aussi de rire des choses graves. Ça, c'est quelque chose qui est très important donc, dans les générations donc, de punk des années 90, punk à chien, à qui je fais des entretiens. Et ce que j'observe en faisant des entretiens avec des personnes plus jeunes qui rencontrent ces personnes-là, justement, c'est que parfois, il va y avoir des clashs très forts sur le thème de l'humour, puisque, donc là, par exemple, j'avais un exemple avec Lune, qui est une personne plus jeune, qui va vivre particulièrement mal les blagues qui lui sont faites, qu'elle a vraiment le sentiment que c'est une forme de critique ou de remise en question d'elle-même. Elle se sent pas en mesure de répondre quand on la tacle, en fait, et du coup, elle va se sentir complètement exclue de ces espaces-là. Un deuxième exemple d'évolution des normes d'expression, ça va être le rapport, en fait, quels sont les espaces de la discussion et de la prise de décision. Donc quand je fais des entretiens avec des personnes qui vivaient dans les squats punk du début des années 2000, Globalement, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y avait pas de réunion, c'était très informel. C'était vraiment une organisation de type un peu... Enfin voilà, on se retrouve autour de la table le soir, puis on discute, puis les gens qui veulent faire des trucs font des choses, et voilà. Et quand on voit les nouvelles générations qui arrivent dans les squats, c'est des personnes qui viennent aussi d'un milieu plus militant, plus politisé, qui vont ramener la forme réunion, qui vont être habituées à ce fonctionnement de la réunion, et qui vont très mal vivre l'impossibilité de s'organiser selon ces règles. Donc tout ça, ça va être vraiment des points d'achoppement, en fait, et de confrontation de ces régimes de radicalité dans le quotidien des squats, en fait, et dans les façons de vivre des gens. Pour résumer un peu ce qu'on peut retirer de tout ça, c'est qu'il y a des issues différentes aux négociations qui sont faites entre ces régimes de radicalité concurrents, c'est-à-dire que les gens vivent dans le même squat, appartiennent à des régimes et des générations différentes, sont en tension, négocient, et en fait, selon les sujets, ne vont pas trouver le même point d'accord. Typiquement, sur ce qui relève de l'hygiène, en fait, il y a une victoire quasi totale de la norme maintenant de la propreté. Ça semble inconcevable de défendre le fait qu'on va laisser la salle commune sale sans la nettoyer. Donc, tous les squats ne sont pas aussi propres, etc. Mais en tout cas, porter le discours de défense de la saleté, aujourd'hui, c'est très difficile à faire, quoi. On peut aussi expliquer ça par le fait qu'avant, il y avait beaucoup de squats qui n'avaient pas d'électricité, pas d'eau chaude ou pas d'eau tout court. Donc ça a impacté sans doute aussi le niveau d'hygiène qui était attendu. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus généralisé, l'électricité, l'eau, tout ça. Si on prend le cas de l'alcool, c'est différent. L'alcool, c'est quelque chose qui peine beaucoup plus à être remis en cause. Globalement, les gens qui vont être radicalement contre la consommation d'alcool vont simplement arrêter d'aller aux soirées et aux concerts. Mais du coup ne vont pas parvenir à véritablement réformer ce qui se passe dans les soirées et dans les concerts. Donc pour le coup, sur ce point-là, le nouveau régime de radicalité peine à s'imposer. Bon voilà, on pourrait lister, mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que la transition entre un régime de radicalité à un autre n'avance pas en fait en monobloc comme ça, mais ça avance de manière différente selon les points. Ce que je voulais souligner également, c'est que la transmission se poursuit, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui arrivent en squat qui finalement vont être acquis aux idées de la génération précédente qui va réussir à leur transmettre et ils s'inscrivent voilà, en adéquation avec ce style de vie punk à chien, par exemple. Voilà. Mais dans d'autres cas, il va y avoir des gens qui arrivent en squat comme ça et là, il y a une coupure de transmission et les nouvelles générations vont se construire contre. Mais ce n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'on a les deux cas de figure. Donc là, je vais donner un exemple d'un cas où on voit comment quelqu'un va se construire contre l'identité des punks, donc elle arrive en squat. Donc on a l'une qui nous raconte que voilà, en fait, je lui pose une question sur sa coupe de cheveux. Et elle me dit, voilà, avant de me raser le crâne, j'ai fait une crête. Et tout ce que j'ai pensé, c'est, oh, ça va faire chier mon père, mon frère et ma mère. C'est tout ce que j'ai pensé. J'ai pas pensé être punk, j'ai pas pensé quoi que ce soit. Et quand je me suis ramenée, donc quand elle s'est ramenée au squat, on m'a dit « Ouais, t'es pas punk » et tout ça. Puis moi, je me pensais même pas punk, tu vois, j'ai même pas compris. On m'a dit « Ouais, je te couperai, je te raserai ta crête ». Ils lui ont dit « Je te raserai ta crête ». Bon, ils l'ont jamais fait, tu vois. Puis moi, tu sais, j'étais là, j'étais un peu en mode rigolo, je me foutais de leur gueule parce que, tu sais, je pensais même pas ça, tu sais. En même temps, juste le fait d'être là, ça faisait qu'en fait, j'affirmais un truc punk contre les punks, au-delà de moi. Et au final, je crois que petit à petit, je me suis pas dit que j'étais punk, peut-être parce qu'on m'acceptait pas. Et peut-être que, je sais pas, du coup, ça me parlait pas. En tout cas, je sais pas, je me disais, moi, ni punk, ni pas punk, quoi. Et ensuite, donc, elle raconte, voilà, je crois que je me suis rasé les cheveux, il y avait ce côté un peu androgyne. À un moment donné, je cherchais un peu ça, donc il y avait pas une réflexion trans, mais... Enfin, voilà, elle développe un look androgyne et non binaire. Et on voit vraiment concrètement comment ça passe par, en fait, l'impossibilité de s'intégrer dans le groupe punk, qui sont en fait des hommes plus âgés qui sont dans le squat. Elle arrive avec une crête, on la reconnaît pas comme punk, on l'exclut d'emblée du groupe, et du coup, elle va développer un discours contre cette génération qui la rejette. Et en même temps, donc, le sens qu'elle va donner à sa coupe de cheveux évolue. Donc elle s'était fait une crête, elle était en recherche d'une forme de marginalité à travers cette coupe de cheveux. Finalement, elle se rase le crâne, et elle s'inscrit toujours dans cette forme de marginalité par la coupe de cheveux, mais plutôt une marginalité de genre, un côté non-binaire. Une réflexion féministe, et qui va se constituer précisément contre ses interlocuteurs masculins qui la dénigrent et ne la reconnaissent pas à sa juste valeur. C'est vraiment intéressant, je trouve, cet exemple, pour comprendre que c'est pas parce qu'il y a des discours féministes ou queer qui existent, qui vont nécessairement se répandre dans la société chez les individus, mais là, on voit vraiment comment le discours féministe et queer, en fait, va entrer en résonance de manière très forte dans la trajectoire de certaines personnes, notamment des femmes plus jeunes, qui vont se sentir non reconnues et n'arrivent pas à se faire une place en fait, dans ce milieu, et donc vont s'affilier à cette revendication-là. Ça fait aussi écho à une idée de syncrétisme, en fait, des contre-cultures, c'est-à-dire que finalement, de punk à queer, il n'y a qu'un pas pour cette nouvelle génération, et que l'une, en l'occurrence, va franchir lorsqu'elle est refusée du premier groupe. Bon, bah tant pis, elle se rabat sur le deuxième. Donc ça m'amène à ma dernière partie, qui va être en fait de réfléchir un peu à justement comment par en bas on peut expliquer l'émergence de ce dernier régime de radicalité. Donc un premier facteur qui me semble intéressant à souligner, ça va être justement le phénomène de syncrétisme des contre-cultures. Donc là j'ai mis un extrait d'entretien donc que je vais pas lire, mais qui en tout cas est intéressant, parce que c'est une personne qui arrive dans le squat, qui portait une crête, porte des rangers, un treillis, un keffier, mais qui n'associe pas en fait ces éléments directement à la culture punk, mais plutôt à un groupe général des contre-cultures qui sont partagés par les punks, par les toughers. Et on voit vraiment que ça fait écho en fait aussi au fait que dans les années 90, le punk va s'hybrider avec d'autres styles musicaux, mais aussi les individus vont... Enfin voilà, il y a des punks qui vont aller dans des toughs, des toughers qui vont se looker comme des punks, etc. Il va y avoir une hybridation en fait entre des pratiques et des styles de vie, entre des éléments esthétiques, et du coup une dispersion aussi du régime de radicalité punk et de ses spécificités. Donc ça, il me semble que ça souligne aussi l'intérêt de penser les liens entre le mouvement punk et les autres contre-cultures, qu'elles soient donc contre-cultures ou mouvements militants radicaux. Un deuxième élément qui va permettre de comprendre les conditions d'émergence de ce régime de radicalité, ça va être en fait la disparition des bandes de punk, qu'on peut distinguer en plusieurs étapes. D'abord, un premier phénomène qui va être la disparition des bandes de jeunes donc punk ou issus d'autres contre-cultures de la rue. C'est-à-dire qu'on voit des punks dans les concerts, etc., mais beaucoup moins dans l'espace public en train d'occuper une place et de rester toute la journée dehors à boire des bières, comme c'était le cas auparavant. Ce qui fait que ça va être plus difficile, en fait, qu'il y ait des espaces de transmission entre les générations, puisque ces espaces de la rue étaient vraiment très importants, où les jeunes arrivaient et se socialisaient au contact des aînés. Finalement, pour les nouvelles générations, le squat va être un des rares endroits qui reste pour vivre au quotidien des longs moments avec d'autres punks et qui est des espaces de transmission de ces styles de vie. Et une deuxième étape dans cette fin des bandes de punk, ça va être que justement, en fait, en sortant de la rue, en allant dans le squat, donc première disparition, et ensuite, avec le syncrétisme aussi, avec certains éléments de la culture teufeuse, il va y avoir beaucoup de gens qui vont prendre des camions, partir sur les routes, et donc ne plus être en squat, et donc il ne va même plus y avoir les espaces squat de punk pour socialiser les nouvelles générations et transmettre en fait, ces régimes de radicalité. Donc voilà, simplement, il y a moins d'espace de socialisation à ces régimes de radicalité-là, ce qui fait que les nouvelles générations qui arrivent vont créer aussi leur propre système de référence en n'ayant pas besoin de négocier un terrain d'entente avec les personnes qui sont déjà là, puisqu'ils ne se rencontrent pas nécessairement. Donc dernier élément avant de conclure, ça va être en fait ce qui va expliquer aussi comment émerge ce dernier régime de radicalité, en fait un éloignement progressif en fait, de la scène musicale contre-culturelle punk et des milieux militants radicaux autonomes et anarchistes, qui étaient très liés auparavant. Et en fait, des divergences vont se creuser au fur et à mesure, alors que à la fois le mouvement punk va s'engouffrer d'un côté dans une sorte de professionnalisation, ou en tout cas de structuration de sa scène musicale avec ses labels, etc., qui va chercher à se pérenniser, qui va se recouper aussi avec un phénomène de recherche de pérennité de certains squats qui obtiennent des conventions, sont légalisés, je pense par exemple aux tanneries à Dijon. Une autre branche où en fait les squats, donc dans les années 2000, avec des punks plus punk à chien, arrachos en fait, qui vont se détacher du versant politique du punk, vont être en syncrétisme avec le mouvement tougher, les gens vont partir en camion, etc. Et du coup, qui vont se détacher en fait de l'avant-garde militante radicale autonome, qui va développer un régime de radicalité qui est inspiré du punk, mais qui critique avec véhémence justement cette génération de punk qu'elle a côtoyée, donc précisément ces punks à chiens arrachos, qui constituent en fait le modèle repoussoir ultime, et qui en fait, en ne les côtoyant pas ou plus, n'a pas besoin de négocier un terrain d'entente entre leurs deux conceptions du monde. Et aujourd'hui, si on regarde les squats autonomes, notamment en région parisienne, on voit qu'ils sont très très éloignés des scènes musicales contre-culturelles, quelles qu'elles soient, punk mais aussi teufeuses. En région parisienne en particulier, les squats autonomes font assez peu de concerts, et les gens qui habitent, quand on regarde ce qu'ils écoutent comme musique, ça va être des musiques en fait très commerciales. Y a un côté presque imperméable en fait aujourd'hui entre les deux milieux. Donc pour conclure, il me semblait intéressant de penser comment le dernier régime de radicalité en fait va trouver ses fondements dans la critique même de l'incarnation du régime précédent par la génération précédente, et notamment par la forme incarnée que constituent les punks à chiens, d'où l'intérêt de l'analyse sociologique pour voir comment les personnes se revendiquant punk incarnent et mettent en pratique ces régimes-là. Et c'est vraiment la perpétuation du style no future par la génération des punks à chiens 90 qui va servir de contre-modèle. En ouverture, je voulais dire que un phénomène intéressant qu'on peut observer, c'est le fait que quelques personnes récemment œuvrent à essayer de réformer en fait le dernier régime de radicalité, donc queer, plus straight edge, etc. Mais en utilisant ses propres arguments pour le critiquer. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu qui est plutôt porté par des femmes, donc qui sont acquises aux idées de féminisme, de déconstruction du genre, etc. Mais qui en même temps ont été fortement socialisées auprès de personnes de punk à chien appartenant au régime de radicalité précédent, et qui vont formuler par exemple une critique de la position straight edge en disant en fait c'est une forme de validisme ou de classisme parce que les personnes qui sont alcooliques, qui sont héroïnomanes, qui ont des dépendances à la drogue, c'est des personnes qui ont du coup des problèmes psy, et donc c'est une forme de rapport de domination que de les exclure des espaces. Et du coup, à la fois, c'est intéressant de voir qu'il y a une tentative de réformer le nouveau régime de radicalité, et en même temps, le fait que ça soit les arguments du nouveau régime qui soient utilisés contre lui-même montre bien à quel point celui-ci a triomphé, finalement, puisqu'on ne peut plus le contredire autrement qu'avec ses propres arguments. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Bravo, merci beaucoup. Alors... excusez-moi, on doit avancer. Donc du coup, il n'y aura pas de questions cette fois-ci, je suis bien désolé, alors que le sujet est passionnant, je vous l'accorde. On doit avancer pour conclure, effectivement, avant le bœuf, pour préparer effectivement la scène pour les musiciens. Donc merci encore beaucoup. Désolé pour les questions, mais...
Donc on va poursuivre les questions. Je suis désolée, on a 10 minutes de retard. Donc là, il y a la rue qui t'emmerde qui va faire un petit concert en acoustique dans le couloir, enfin là où il y a le bar. Et ensuite, on verra comment on fait. On ira chercher de la pizza et on fera le bœuf derrière. Voilà. On voulait vous remercier pour la journée. Et moi, je voulais dire, elle est partie, Coralie ? Non, elle est là. Je ne sais plus où elle est. Mais quand même, je ne sais pas si ça a été dit avant, Caroline. Coralie, elle est en doctorat. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration parce que moi, quand j'étais en deuxième ou troisième année de doctorat, je n'aurais pas pu faire une com aussi bien. Donc vraiment, bravo.
C'est très bien.
Bravo.
Bravo.
Voilà, donc on libère et puis on se quitte.
En tout cas, on vous remercie tous et il y aura d'autres rendez-vous dans l'année. Place à la musique.